Les Parloirs, une rencontre tant attendue aux enjeux pluriels. Et je vous laisse donc la parole.
Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'introduction et merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis extrêmement sensible au thème que vous avez choisi pour l'année. Je suis bien malheureuse parce que j'aurais bien aimé faire connaissance, mais c'est impossible pour moi ce jour-là, ces horaires-là. Donc voilà, je serais très curieuse de ta communication, Elsa.
Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on met en ligne le podcast des interventions.
D'accord.
Enfin, une grande partie des interventions, je pense que c'est déjà disponible sur le canal de recherche des données.
Salut tout le monde.
On est différents projets à différents moments. Donc c'est effectivement, moi, une thématique qui m'a beaucoup interpellée et qui m'a occupée un certain nombre d'années, puisque j'ai effectivement travaillé sur l'expérience des maintiens des liens familiaux. Des proches incarcérés, sur les proches, l'expérience des proches incarcérés. Donc ça m'a occupé toute ma thèse, et puis le temps de la rédaction de l'ouvrage, et puis ça continue maintenant, quelques temps après ma soutenance, à me travailler, me questionner, parce que je trouve que c'est des vrais enjeux. Il y a eu beaucoup de sociologie maintenant sur le monde carcéral, ou sur les questions d'enfermement, il y en a beaucoup aussi sur la famille, hein, la littérature de sociologie de la famille notamment est très large, mais finalement sur les rencontres entre institutions et familles. Il y a des références lointaines, mais je trouve qu'il y a encore vraiment beaucoup de travaux à faire. Et c'est une question qui reste, à mon sens, très actuelle. Donc, je vais vous présenter très rapidement, en introduction rapide, voilà, quel était l'objet de ma thèse, enfin, les lignes directrices de mon travail, la méthode que j'ai utilisée pour que vous sachiez d'où je parle. Et puis après, donc, la communication. Il y a plein de communications à différents moments, mais on a décidé, enfin, vous avez été invité à parler sur les parloirs, mais ça va, enfin, parler des parloirs, ça n'a pas de sens si on ne retrace pas l'expérience des parloirs dans l'expérience générale de ce que vivent les familles de détenus et dans ce que vivent aussi les détenus et dans tous les enjeux carcéraux qui imprègnent évidemment cette rencontre au parloir. Donc le parloir, c'est vraiment une entrée qui va permettre de discuter plein d'autres questionnements. Donc, comment moi j'ai été amenée à travailler sur les familles de détenus, en fait, dans le cadre d'un master de recherche qui, si je dois l'avouer, était un DEA, mais ça ne fait pas rien. Donc, je dis maintenant master de recherche. J'ai travaillé sur la citoyenneté des détenus, et donc du coup, j'étais en détention pour rencontrer, j'étais une quarantaine d'entretiens avec des hommes incarcérés, et beaucoup m'ont dit la prison, c'est galère, vous connaissez de l'expérience carcérale, mais je sais que c'est encore plus dur pour ma famille, c'est ma famille qui doit venir, etc. etc. Et donc du coup, à partir vraiment des questionnements des détenus, je me suis interrogée, j'avais effectivement pas pensé à l'époque que les familles pouvaient comme ça aussi être impactées, et du coup je me suis demandé qu'est-ce que ça pouvait être l'expérience d'une institution totale pour ceux qui ne sont pas reclus à l'intérieur. Et donc assez rapidement j'ai vu qu'il y avait peu de travaux, il y avait la thèse de Gomelard et Pinto qui était en cours à l'époque, il y a un petit peu plus de travaux à l'international, mais pas énormément, et donc du coup j'ai choisi de traiter cette expérience des familles de détenus. Un des questionnements que vous avez soulevé et sur lesquels je me suis arraché les cheveux et sur lequel j'ai pris une position, c'est qu'à un moment il faut choisir, mais c'est qu'est-ce qu'on entend par proche du détenu, enfin, voilà, qu'est-ce que le lien familial, est-ce que du coup j'intègre ou pas les amis, est-ce que, enfin voilà, donc ça c'est des questionnements qui ont traversé l'ensemble de mon travail, et donc voilà, j'ai décidé que c'était pas forcément juste de parler de famille, parce que j'ai pas nécessairement interrogé les configurations familiales. J'aurais pu faire une thèse en interrogeant différents membres de la famille, dont la personne détenue, pour interroger comment une famille se recompose à partir de différents points de vue. C'est pas ce choix-là que j'ai fait. Donc, voilà, je peux parler de l'expérience des familles de détenus, mais plus souvent, est-ce que je trouve plus juste de parler de l'expérience des proches. Et puis, du coup, j'ai considéré plutôt un peu, enfin, toute personne qui vient au parloir et qui est proche. Donc, il y a dans les personnes que j'ai rencontrées, évidemment, beaucoup de personnes qui sont bien familles, je ne parle pas essentiellement des membres et des compagnes. Mais j'ai rencontré trois amis de détenus qui venaient régulièrement. J'ai rencontré une tante et un oncle. J'ai rencontré des sœurs aussi, de détenus. Alors, c'est plus marginal, hein, sur les 60 personnes que j'ai rencontrées. 50 sont femmes et mères, et puis dans ces 10, voilà, il y a ces profils-là, et c'est important quand même de rappeler qu'elles peuvent exister et être aussi impactées par ça. Et ensuite, mon travail était guidé par trois questions principales. D'abord, quelle était, définir ou essayer de comprendre la politique institutionnelle de l'administration pénitentiaire à l'égard des familles de détenus. Et là, ça soulève tout un enjeu, effectivement, pour l'institution, parce que ce ne sont pas des personnes détenues, ce ne sont pas des personnes sous l'injustice, ce ne sont pas évidemment des personnels sur lesquels l'administration a une mise, mais c'est néanmoins des personnes qu'elle doit accueillir chaque semaine pour organiser l'accueil et organiser aussi la surveillance avec, selon les périodes, une plus ou moins grande préoccupation pour la question du maintien des liens. Donc ça, c'était déjà un premier axe de travail. Le deuxième, bon, je pense que vous avez compris, c'était vraiment de définir ce que c'était l'expérience d'un proche de détenu, que j'ai appelé au cours de ce travail l'expérience carcérale élargie. C'est vrai, la question était vraiment très basique au départ, hein, c'était qu'est-ce que ça fait au quotidien d'avoir un proche incarcéré. Donc je ne suis pas partie dans des vrais gros questionnements théoriques. Évidemment, hein, on voit tout de suite qu'il y a des effets de contamination du stigmate, d'effets de prisonnierisation de la famille, etc. Mais moi, ce que je me suis vraiment attachée à décrire, c'est voilà, au quotidien, qu'est-ce que ça génère du début de l'incarcération, mais souvent même avant, puisque en fait, les effets de la détention commencent bien avant, souvent au moment de l'arrestation, on y est assisté ou pas. Les jours de garde à vue sont très importants et pour les familles et commencent déjà à impacter beaucoup. Et le quotidien, évidemment, psychologiquement, et puis d'un point de vue matériel, il y a déjà beaucoup de conséquences, et puis la rupture du lien se fait souvent à ce moment-là, en fait, et pas au moment de l'incarcération. Puis selon qu'on est assisté ou pas, qu'il y ait la présence des enfants ou pas pendant cette arrestation, évidemment, ça a des impacts sur, en tout cas, le démarrage de l'expérience. Et puis après, suivre comment l'expérience se décline au fur et à mesure de la longueur de l'expérience, de l'impact de l'infraction qui a été commise, etc. Et puis le troisième sujet, le troisième axe problématique de mon travail, c'était vraiment de comprendre la recomposition des liens donc familiaux, mais qui étaient souvent ou des liens conjugaux ou des liens parentaux, au-delà des murs, hein, par-delà les murs. Avec, là aussi votre question appelle complètement écho à mon travail, pour montrer souvent qu'il y avait vraiment une ambivalence de la recomposition du lien, en tout cas entre des fois les discours et ce qui se passait, c'était pas non plus simple. Et ce qui m'a en fait un peu interpellé, c'est que les travaux qui existaient jusqu'à présent partaient du principe et expliquaient et mettaient en valeur l'importance des ruptures des liens, et à juste titre, hein, parce qu'il y a beaucoup de liens qui se rompent. Et j'ai un peu renversé la problématique en disant, certes, il y a beaucoup de liens qui se rompent, mais comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes qui viennent encore au parloir? Et qu'est-ce qui fait que les liens peuvent se maintenir? Qu'est-ce qui explique finalement qu'un lien peut se maintenir malgré l'incarcération et les conditions, on va le voir, de visite et de maintien des liens qui sont extrêmement complexes, pendant, alors évidemment 3-4 mois parfois, mais pendant parfois 15 ou 20 ans, et qui est comme ça une fidélité par rapport à la personne. Enfin, fidélité, le terme renvoie à plein de choses, c'est pas du tout un terme que j'utilise dans mon travail. Mais bon, en tout cas, comment ça se fait que le lien perdure autant? Donc en essayant de renverser un petit peu la question, j'ai plutôt travaillé sur les supports des liens que sur les causalités de rupture, même si évidemment mon travail est traversé par tout ce qui permet de comprendre. Alors, je n'ai pas non plus aussi renversé la question juste pour le plaisir répétitif, mais aussi parce que ça découlait de la méthodologie que j'ai pu employer. Et quand on se pose la question de comment on va étudier ces trois axes-là, se pose la question de comment on va s'y prendre d'un point de vue méthodologique. Donc, vous avez compris tout ce que j'ai dit, sociologue et pas historienne. Pas de travail sur les archives, même si évidemment pour définir la politique de l'administration, j'ai travaillé sur la littérature grise, sur les textes et les lois. Mais bon, évidemment, mon idée, c'était d'aller interroger et de mener des entretiens, un peu d'observation, mais très marginale. Et donc, pour rencontrer des familles, en fait, j'ai effectivement essentiellement rencontré des familles, enfin, des proches qui maintiennent le lien. Évidemment, j'ai essayé de rencontrer quelques personnes en situation de rupture, mais c'est très compliqué parce que simplement, on ne sait pas où les rencontrer. Et puis, en général, quand il y a rupture de lien, c'est souvent aussi douloureux. Donc, il y avait là, de toute façon, une impossibilité méthodologique à aller véritablement rencontrer les personnes en situation de rupture de lien. Et puis, non seulement j'ai rencontré essentiellement des personnes qui maintiennent le lien, mais j'ai aussi rencontré uniquement des personnes, essentiellement des personnes qui se rendent au parloir. Donc là aussi, on a montré, alors je disais, comme dans toute recherche, mais c'est important de le signaler. J'ai rencontré et mon travail porte sur des personnes qui visitent les personnes détenues, parce que je me suis rendue en fait devant des prisons, qui était le seul moyen pour moi d'aller les rencontrer à l'occasion d'un rapport. Alors après, il y a des travaux statistiques qui ont montré qu'en général, quand on maintient le lien par paroi, on maintient aussi par téléphone, enfin, c'est rare que les personnes maintiennent uniquement par courrier, ou alors c'est que les liens sont très 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 distendus. Pour le coup, dans d'autres recherches par ailleurs, j'ai pu rencontrer un certain nombre, notamment effectivement des femmes détenues, qui recevaient une ou deux cartes par an, carte postale. Donc voilà, il y avait un lien comme ça qui était maintenu, mais très 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 marginal. Donc souvent, néanmoins, quand les personnes vont aux parois, c'est aussi qu'elles maintiennent, quand les personnes entretiennent le lien par téléphone, c'est aussi souvent qu'elles vont aux parois, même de manière assez marginale. Voilà, donc c'était important. Donc du coup, je me suis rendue devant plusieurs établissements, puisque l'idée c'était, je ne sais pas du tout quelles sont vos connaissances sur les prisons, leur fonctionnement, mais il y a des établissements, il y a trois types d'établissements en France. Il y a les maisons d'arrêt, les centres de détention et les maisons centrales. Donc les maisons d'arrêt, c'est pour normalement les prévenus et courtes peines, moins d'un an, pour lesquelles moins d'un an. Et puis après, il y a les centres pour peine, avec les centres de détention orientés vers la réinsertion et les moyennes peines, et les maisons centrales, qui sont très marginales en France, hein, puisque sur 190 établissements à peu près, il y a 8 maisons centrales. Après, il y a les quartiers maisons centrales dans certains établissements, et qui sont là réservés pour des détenus très longtemps. Donc, je me suis rendue devant des maisons d'arrêt, centres de détention et maisons centrales pour rencontrer des personnes qui avaient des expériences différentes. Et puis, marginalement aussi, dans une association qui proposait un hébergement pour les familles venant de loin, et ce qui m'a permis aussi d'interroger la question de la distance, et qui était par ailleurs tenue par des sœurs, ce qui m'a permis de proposer aux familles de détenus. Donc, j'ai rencontré à peu près une soixantaine, un peu plus de 60 proches du détenu par ce biais-là. Je vous passe difficulté de terrain pour réaliser ça. Mais, difficulté certes, mais aussi beaucoup de personnes qui avaient envie de parler. Et du coup, j'ai eu beaucoup d'entretiens très riches, très longs, et souvent effectivement très, très intéressants, avec des personnes qui ont très peu d'espace finalement de parole. Et puis, il a été important pour moi aussi, notamment dans cette optique de comprendre la politique de l'institution pénitentiaire, d'aller rencontrer des personnels de surveillance qui travaillent au poste au parloir. Et donc, une fois que j'avais fini les entretiens avec les familles de détenus, j'ai également mené une vingtaine d'entretiens avec des personnels de surveillance dans 3 ou 4 établissements différents là aussi. Qui était spécifiquement en poste au parloir, en sachant qu'il y a des établissements où il n'y a pas ce qu'on appelle des équipes fixes, donc c'est des surveillants qui un jour s'occupent des parloirs, le lendemain s'occupent de la poursuite, voilà. Donc cela avait souvent moins de choses évidemment à dire sur les parloirs, mais c'était aussi intéressant de voir le regard qu'ils pouvaient avoir sur les familles quand ils n'étaient pas spécifiquement attachés au poste d'accueil et de surveillance et de contrôle des familles. Et du coup, par ce biais-là, j'ai aussi effectivement effectué quelques observations en parloir, plus que des observations de parloir. J'ai accompagné le personnel de surveillance dans leur mission de surveillance au parloir, en sachant que il y en a avec qui je suis restée intégralement dans le bureau parce qu'ils n'effectuaient pas de ronde, et puis d'autres qui ne cessaient de tourner entre les cabines pour exercer un contrôle permanent. Donc, je suivais, quand ils restaient dans le bureau, j'étais dans le bureau avec eux, et quand ils tournaient, je tournais avec eux. C'était une expérience peu agréable, intéressante, mais voilà, pas très, en tout cas très questionnante, et qui malaisante, hein, voilà. En tout cas, je n'aurais pas poursuivi les observations en parlant. Voilà, mais c'était notamment intéressant, on y reviendra largement dans la communication, pour voir ne serait-ce que les architectures en fait, des parloirs et la diversité des architectures qui ont évidemment un impact très important sur l'intimité qu'il est possible d'avoir. Au parloir, et sur, alors au-delà de l'intimité, hein, sur les conditions des relations qui peuvent se nouer. Je finis ma longue introduction. Il va falloir me surveiller ici. Je vais être sinon trop bavarde. Du coup, je vais vous proposer une communication. Alors, je n'ai pas forcément tout hiérarchisé, mais avec principalement 3 grandes parties. une première partie sur ce que j'ai appelé la contextualisation du parloir, c'est-à-dire tout ce qui est l'avant-parloir, voilà, des éléments un peu généraux sur le parloir, et qui finalement est important de comprendre, voilà, tout le chemin avant le parloir pour comprendre comment ça peut se jouer, parce que, encore une fois, il y a tout ça qui se passe avant. Voilà. Donc, première partie sur des éléments généraux de contextualisation du parloir. Deuxième partie qui portera plus sur les conditions d'intimité au parloir et sur les règles de la conversation au parloir. Et une dernière partie sur plus particulièrement sur la relation à l'épreuve du parloir. Et j'aimerais conclure, je ne suis pas à 2 heures de temps de parole, sur la question de la sortie du parloir qui est aussi importante. Et si j'ai le temps de faire un focus sur les unités de vie familiale, ça serait formidable. Qui sont donc un nouveau dispositif de visite. Alors, première partie, hein, sur tout ce qui est avant parloir, la contextualisation du parloir. Alors, on dit souvent, hein, que le parloir, évidemment, c'est un moment, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un moment essentiel, que c'est un moment particulièrement important. Et de la bouche des surveillants, par contre, enfin lui aussi, c'est un moment particulièrement sensible. Donc en fait, tout le monde reconnaît sur le fait que c'est un moment en tout cas particulier et singulier pour tous, qui a des enjeux spécifiques. On dit que les parloirs sont à la fois un espace, un temps et un moment de rencontre. Donc un espace, parce que souvent on dit, voilà, on va au parloir, mais en parlant, voilà, enfin, c'est la salle des parloirs s'appelle des parloirs. C'est pas radio, mais en tout cas, ça désigne un espace. Alors, très souvent, hein, enfin, les termes qui reviennent, on parlera de l'architecture tout à l'heure, mais évidemment, ce qui ressort très souvent dans le discours des familles, c'est la saleté des parloirs, qui n'est pas évoqué simplement pour dire que c'est sale, mais pour aussi témoigner de l'effet de souillure qui est ressenti à ce moment-là par les familles de détenus, avec une idée de dégradation de la considération, hein, que l'administration, enfin je reprends, pour les familles, c'est le synonyme de la déconsidération que l'institution a à leur égard, avec des discours, si l'institution, si la prison nous respectait, ils ne nous accueilleraient pas dans des endroits si. Et la saleté des parloirs sert aussi beaucoup des discours à l'encontre des autres familles, parce qu'on va évoquer rapidement aussi les relations compliquées entre les autres familles. Et souvent, c'est, voilà, regarder les parloirs comme ils sont sales, ça prouve bien que les autres familles ne se tiennent pas bien, ça fasse tenir, etc. Et reprennent elles-mêmes un certain nombre de stéréotypes qui pèsent sur la catégorie famille de détenus. Donc c'est aussi un temps, les parloirs, voilà, on parle d'un temps de parloir. On va le voir selon les... donc, en maison d'arrêt, ce qui est donc les principaux établissements, les temps de parloir sont en général entre 30 à 45 minutes. Donc c'est 30 à 45 minutes. Dans les établissements pour peine, ça peut être très, enfin c'est très variable. Ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures. Dans certaines maisons centrales, ça peut être uniquement le week-end et 2 heures matin, 2 heures d'après-midi. Enfin voilà, là c'est vraiment à la discrétion du chef d'établissement. Et puis, voilà, on parle d'un moment de parloir, parce qu'on dit, est-ce que tu as passé un bon parloir ? Est-ce que tu as passé une bonne rencontre ? C'est en tout cas, incontestablement, évidemment, un lieu entre le dedans et le dehors. Les surveillants ont l'habitude de dire que c'est l'endroit où les détenus sont le plus près de la porte de sortie, et c'est pour ça que c'est sensible. D'ailleurs, il y a effectivement quelques tentatives d'évasion ou évasion qui ont eu lieu au parloir, avec l'idée que c'est là où le détenu a le moins de portes à franchir pour être à l'extérieur. Alors c'est aussi spécifique, parce que c'est un lieu de rencontre de dedans et derrière, mais c'est aussi un lieu très spécifique pour les familles et pour les proches, pour trois raisons principales, parce que c'est un moment, un temps, un espace où il est possible de se voir. Alors, bien, bon, c'est possible de se voir, d'accord, mais pour comprendre l'importance de parloir et cette importance de se voir, il faut renvoyer à toute l'expérience que vivent les familles des détenus, et qui sont évidemment marquées, et très fortement marquées, par des angoisses permanentes sur comment va le détenu et quelle est la situation l'épreuve que vit le détenu à l'intérieur, avec des énormes angoisses, des angoisses très importantes, qui sont en partie liées aussi au fantasme que représente la prison, à une méconnaissance des familles sur ce qui se passe en prison, et puis à l'imagerie, hein, évidemment, les reportages, les séries, etc. Donc toutes les familles sont habitées, évidemment, par ces représentations très violentes de la prison, qui sont par ailleurs parfois justifiées, hein, mais qui sont aussi très largement fantasmées. Donc avec une double ou triple crainte, c'est la crainte que son proche subisse des violences, que ce soit des violences de la part du personnel ou de la part des autres détenus, donc il faut le voir pour voir s'il a des traces de coups. Crainte du suicide, donc voir si effectivement il est ou pas, enfin, voilà, comment il va, et ça on peut, les familles disent que c'est uniquement quand on le voit, quand il est en face, que l'on parvient à évaluer l'état de la situation. Et puis, ça va avec aussi crainte, voir s'il a maigri, pas maigri, s'il est marqué physiquement ou pas par la prison. Donc, état physique, état psychologique, et puis trace de coups. Donc, les familles disent, moi je sors d'un parloir, je suis déjà angoissée parce que j'attends le prochain parloir, et même si j'ai des courriers, même si j'ai un coup de téléphone, pour savoir vraiment comment il va, il faut que je puisse le voir. Autre élément, qui explique aussi cette importance des parloirs, c'est un moment le seul moment où il est possible de se toucher. Et là, évidemment, alors sans parler de sexualité, on pourra évidemment y revenir, c'est là aussi essentiel parce qu'on peut passer effectivement beaucoup d'affect, beaucoup de soutien, beaucoup de réconfort à travers le toucher, ce qui est évidemment aussi très réglementé par l'institution. Donc c'est un enjeu aussi. De savoir jusqu'où il est possible d'avoir des contacts ou pas, et comment on va avoir transgressé les interdits de l'institution carcérale. Donc ça, c'est aussi très important. Et là aussi, c'est le seul moment qui est offert. Alors, à part, encore une fois, les unités de vie familiale, les unités de vie familiale, c'est beaucoup, beaucoup plus marginal. Troisième élément, c'est qu'il y a un lieu où il est possible d'échanger des choses. D'échanger des choses en direct, donc évidemment c'est là où on va pouvoir faire passer des courriers, des lettres, c'est très souvent aussi des petites choses vraiment très anodines, des fleurs qu'on va mettre, y a bien d'autres choses qui sont passées, mais il y a aussi beaucoup qui passent vraiment des choses très anodines. Ça peut être aussi un courrier qu'on fait, alors c'est interdit d'apporter le moindre courrier ou la moindre chose à voir, mais ça peut être aussi, je dis n'importe quoi, mais ça peut arriver des recommandés de postes qu'on fait signer, des démarches, des papiers d'avocat, des papiers scolaires, parce que sinon le temps que ça passe par les courriers, il y a 2 mois qui peuvent passer parfois. Donc voilà, et puis évidemment c'est un endroit où on passe beaucoup de nourriture, parce que à la fois c'est dans cette logique aussi d'apaiser, on va voir, c'est vraiment ce qui traverse aussi l'expérience et le maintien de la relation. L'objectif beaucoup des familles, et souci beaucoup des familles, c'est d'alléger l'épreuve qui est vécue par les détenus, et ça passe notamment par des petites choses, ne serait-ce que de lui donner des choses qui lui font plaisir à manger. Donc l'importance de la nourriture est vraiment essentielle. Et puis ça peut être aussi apporter de la nourriture pour partager aux parloirs, parce qu'une des caractéristiques des parloirs, c'est que les relations n'ont aucun autre support que la parole. Et comme je le dis très souvent, sans révéler des choses qui viendront probablement après dans la communication, essayez de vous mettre vous-même dans une situation pendant 2 heures en face à face avec juste une table, avec même votre ami le plus proche, et ben c'est pas du tout évident de rentrer en communication. C'est pas pour rien qu'on va dans des cafés où on consomme, on prend ne serait-ce qu'un café, etc. Parce que ça fait ça meuble, ça habite la relation, ça habite le décor, et ça permet d'enclencher des relations qui sont extrêmement différentes que de se retrouver dans un face à face d'une table vide. Donc il y a aussi beaucoup pour ça, et puis il y a tout un ensemble de choses qui sont amenées et qui sont évidemment plus illégales que de la nourriture. On sait que les familles sont une des sources d'entrée principales de tout ce qui est produit psychoactif, tout ce qui est drogue, et puis de ce qui peut être des téléphones portables, etc. Avec des familles qui sont plus ou moins consentantes pour le faire, plus ou moins menacées pour le faire, et qui ont plus ou moins conscience des risques, des choses, des rapports qui sont très ambigus par rapport à ça, mais souvent quand même, encore une fois, avec une optique d'alléger la souffrance du détenu, bien souvent. Et pour le coup, parfois, de défier aussi l'institution, évidemment. Alors, là aussi, dans des éléments de contexte, il est nécessaire et important de rappeler que les parloirs sont régis par une réglementation et une législation stricte. Alors, à la fois législation, parce qu'il y a des choses qui sont fixées par le code de procédure pénale par les lois pénitentiaires, et puis il y a des choses qui sont régies sur le registre de la réglementation et qui vont varier en fonction des établissements, donc en fonction de leur architecture, et puis en fonction des lignes directrices du personnel, enfin d'abord du directeur, et puis après les personnels qui vont évidemment appliquer les règles avec plus ou moins de souplesse par nom. Mais la législation donc, a défini, je vais être rapide aussi, mais c'est important quand même de le rappeler, a décrété ce qu'on a appelé les parloirs libres depuis 1983, donc c'est-à-dire les parloirs sans dispositif de séparation, en sachant qu'il existe des murets dans encore à peu près 15% hein, des établissements en France, qui sont des murets qui sont plus ou moins hauts, où il y a une plus ou moins grande tolérance pour le franchir. Il faut savoir quand même que depuis la réforme des sanctions disciplinaires, la privation de parloir n'est plus une sanction disciplinaire, mais ça veut dire qu'avant 1994, on pouvait interdire de parloir, et c'est-à-dire indirectement condamner la famille, punir la famille, à une absence de parloir quand le détenu commettait une infraction, enfin, un incident, ou ne respectait pas les règles à l'intérieur de la prison. Donc ça, ça n'est plus possible. Néanmoins, quand la personne a commis un acte à l'intérieur, les parloirs et gyaphones restent une sanction disciplinaire. Donc le détenu peut être condamné suite à ce qu'il a pu transmettre, enfin, pu faire pardon, en détention, à ce qu'on appelle les parloirs gyaphones. Et donc les familles, évidemment, du coup, subir, entre guillemets, ces conditions de visite. Et donc là, avec les parloirs... voilà, en sachant que par ailleurs, pour les détenus depuis la loi de 2009, quand ils sont condamnés au quartier disciplinaire, ont le droit d'avoir au moins leur premier parloir pendant leur période de quartier disciplinaire. Et ensuite, c'est plus ou moins soumis à la discrétion du personnel. Mais il y a une possibilité de ce qu'on appelle doubler les parloirs pour les personnes qui viennent de loin, ils font une demande particulière. Donc ça veut dire que les parloirs durent une heure, de 30 minutes, ils peuvent durer une heure. Mais ce n'est pas systématique. Et plus les établissements sont surpeuplés, moins ce sera possible, parce qu'évidemment, il y a des tours de parloir, et que plus l'établissement est en surpopulation carcérale, plus les tours de parloir vont être remplis, et plus les modalités pour doubler les possibilités, enfin, aménager les tours de parloir vont être compliquées, et pour trouver des rendez-vous. Il y a aussi quand même important de noter que la qualité des visiteurs s'est élargie au cours de ces dernières décennies. Auparavant, quand on était une famille mariée, c'était extrêmement compliqué de venir au parloir. Ça l'est quand même beaucoup moins maintenant. Ça ne veut pas dire que parfois, ce n'est pas compliqué. Mais en tout cas, maintenant, il y a eu un élargissement dans la loi dans la circulaire de 2009 qui spécifie que la famille élargie doit pouvoir bénéficier d'un permis de visite, sachant qu'ils font néanmoins beaucoup plus souvent une enquête, alors que c'est censé être même automatique pour les personnes qui ont un lien de filiation directe, d'où notamment aussi des questionnements sur comment l'institution définit la famille aussi. Évidemment, les familles, les personnes doivent avoir un permis de visite, on ne rentre pas sans permis de visite. Alors je vous dis, ça paraît évident, mais tous les jours dans les établissements, il y a des familles qui arrivent pour visiter un proche une fois qu'elles ont appris qu'il était incarcéré, sans savoir qu'elle avait besoin d'un permis de visite. Les parloirs sont contrôlés, contrôle d'identité, passage sous les portiques, etc. On pourra y revenir. Les parloirs sont contrôlés, enfin, les familles sont contrôlées, mais les parloirs et les visites en elles-mêmes sont soumis à surveillance par le personnel, surveillance à la fois visuelle, et il est précisé dans le code de procédure pénale qu'il doit aussi pouvoir y avoir une surveillance auditive, c'est-à-dire que le code de procédure pénale prévoit que l'ensemble des conversations des parloirs puissent être entendues par le personnel et qu'une conversation en langue étrangère n'est pas possible, ou alors il faut le personnel qui soit adapté pour pouvoir comprendre la conversation. Alors j'allais dire, heureusement, c'est le texte, et dans la pratique, c'est souvent peu appliqué, mais néanmoins, le fait que les textes existent, hein, c'est pour ça que je trouve que c'est toujours important de s'y référer, ça crée toujours une inquiétude chez les familles de détenus qui ont toujours la peur que potentiellement, voilà, elles soient plus récoutes. Il y a beaucoup de fantasmes aussi hein, de paroles qui seraient sous le micro. Et puis, de crainte que bah, leur paroir ne puisse pas se faire parce que du coup, il n'y a pas un personnel qui serait là pour traduire, etc. etc. Les paroirs peuvent être hein, néanmoins suspendus sous des règles qui sont là aussi plus ou moins définies. et où donc il reste quand même hein, une liberté du chef d'établissement de suspendre pour des durées plus ou moins importantes les parloirs. Ça peut être suspendu, alors évidemment quand la famille a apporté quelque chose et s'est fait prendre, mais aussi quand il y a eu pour le coup parfois relations sexuelles et que voilà, quand il y a eu des échanges qui se sont séparés, quand il y a eu des disputes ou des comportements trop bruyants de la part des familles, il peut y avoir une suspension. Alors le code de procédure pénale, hein, s'il existe des raisons graves de redouter un incident, en cas d'incident au cours de la visite ou à la demande du visiteur. Ça, c'est pour les 20 ans. Bref, les textes disent ça. Et donc, du coup, là encore, hein, ça participe d'une crainte permanente des familles qui savent qu'il existe ce petit alinéa précisant qu'il peut y avoir suspension. On n'a malheureusement aucun chiffre pour évaluer combien de permis sont suspendus, pour quelle durée et pour quel type d'infraction. Donc on n'a aucune visibilité là-dessus. Moi, j'ai rencontré très peu de proches à qui ça a été arrivé. Par contre, quasiment tous m'en ont parlé. Cette crainte que voilà, si on ne fait pas ça ou si on se fait prendre, il pourrait y avoir suspension. Donc j'ai dit aussi des interdits. Donc il est interdit dans beaucoup de parloirs de boire, de manger, d'avoir des relations sexuelles, d'apporter et d'échanger tout type de documents. Le principe, c'est qu'il faut se rendre au parloir les mains et les poches vides. Les parloirs sauvages sont aussi interdits depuis la loi de 2002. Donc les parloirs sauvages, c'est quand les familles sont à l'extérieur et communiquent avec les détenus par le biais de fenêtres, hein, donc de la rue. Là aussi, c'est quand même condamnable d'un an de peine de prison et de 45 000 euros d'amende. A priori, c'est peu appliqué, mais néanmoins, le texte existe. C'est quelques éléments. Quand on se rend aux parois, dans les éléments de contexte, je vous l'ai dit, il y a tout un cheminement très long avant. On rencontre, en fait, les familles rencontrent beaucoup de personnes et ont beaucoup d'interactions avant d'avoir des interactions avec les détenus qui marquent et qui caractérisent aussi cette expérience du parloir. Alors, trois principaux groupes de personnes sont rencontrés. D'abord, évidemment, on pense tout de suite au personnel de surveillance. J'ai développé dans une partie de mon travail hein, toute l'ambiguïté de la politique de l'institution carcérale sur les familles de détenus qui sont, pour le dire très rapidement, vues à la fois évidemment comme un facteur de réinsertion des détenus, donc, qu'il faut absolument privilégier parce qu'il faut réinsérer. Parfois presque à l'excès, parce que du coup les familles peuvent être tenues pour responsables de l'insertion et la réinsertion du détenu, alors que l'institution devrait elle-même travailler plus particulièrement à œuvrer pour la réinsertion. Donc il y a parfois un transfert de responsabilité des familles presque à l'excès. Évidemment, en même temps et en retour, les familles sont aussi vues comme des risques et sont définies comme des facteurs de risque pour l'établissement. Risque de transmission évidemment produit, risque d'agression à l'encontre des personnels, donc ça il y a beaucoup d'informations qui circulent là-dessus. Évidemment, les personnels, là aussi je reprends dans mon travail le travail de Corinne Postin, il y a des personnels de surveillance qui travaillent plutôt dans une optique, plutôt missionnaire ou plutôt, enfin c'est-à-dire qu'il y en a qui vont plutôt appliquer strictement les règles. En estimant que les familles, c'est comme les détenus, il faut appliquer la règle à la lettre parce qu'il y a un objectif de sécurité qui doit primer. Et puis, des personnels qui sont dits, hein, par Corinne Rostin, plutôt missionnaires et qui vont expliquer que l'objectif, c'est plutôt d'apaiser les choses, certes de respecter le règlement, mais par la négociation, par la discussion, par l'apaisement des situations. La rencontre avec les personnels de surveillance, enfin entre les personnels de surveillance et les familles, sont beaucoup animées par ces contradictions-là et par aussi tout un contexte de travail des personnels qui travaillent beaucoup dans l'urgence, qui travaillent dans des établissements qui sont surpeuplés, qui travaillent à l'extérieur de la détention, enfin en tout cas sur un espace ou dans les familles d'accueil à l'extérieur, ou aux parloirs qui sont considérés comme un espace un peu périphérique de la détention, et qui sont par ailleurs du coup très souvent déconsidérés par les autres personnels de surveillance, parce que finalement, là, on a des rapports de virilité, hein, des rapports de genre qui sont vraiment très, très classiques. Ce n'est pas des vrais surveillants parce qu'ils ne sont pas confrontés directement aux personnes détenues. Ah, ce que je n'ai pas dit dans ma population, mais je pense que vous l'avez compris, c'est que j'ai rencontré essentiellement des femmes, hein, de détenues, pour plein de raisons, pour y revenir. Donc c'est des personnels qui travaillent dans des conditions qui sont extrêmement difficiles et qui sont Par ailleurs, les seuls interlocuteurs des familles qui n'ont pas d'autres interlocuteurs, qui n'arrivent jamais à joindre personne au téléphone, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, elles ont énormément de difficultés à les rencontrer, et qui sont donc effectivement les défouloirs des familles, et qui sont très souvent tenus pour responsables, ou à qui on demande très souvent des décisions qui ne relèvent pas de leur situation. Donc, très souvent, on demande quand est-ce que le permis de visite est arrivé, le personnel de surveillance qu'elle rencontre devant elle n'est pas du tout celui qui décide quand est-ce que le permis est arrivé, n'est pas celui qui a l'information, mais c'est évidemment lui qui va devoir gérer la frustration des familles de détenus. Quand il y a une situation de transfert et où la famille n'a pas été prévenue, donc la famille arrive au parloir et le détenu a été transféré ou dans un autre établissement ou pour aller voir le juge pour une audience, c'est évidemment auprès du surveillant d'accueil que la famille va exprimer là aussi tout son mécontentement, alors même que bien souvent, tout le temps, la décision de transfert ne relève pas du tout, effectivement, de la compétence du surveillant qui est en place, et que bien souvent, effectivement, le personnel de surveillance n'a pas l'information qui est exigée, demandée, attendue, évidemment, à juste titre aussi par les familles. Donc, il y a comme ça une confrontation entre les attentes. Il y a aussi, de la part des personnels de surveillance, une logique de gestion de flux, une logique de gestion collective, parce qu'ils ont des tours de paroi, parce qu'ils ont des groupes à gérer. Et en face, il y a évidemment des familles qui sont en attente d'une prise en charge particulière de leur situation, parce qu'elles, elles vivent dans leur souffrance, elles veulent expliquer que là, leur train est du retard, c'est pour ça qu'elles sont en retard, etc. Et le surveillant répond en partie souvent, oui, mais moi, si je prends du retard sur ce paroi, j'ai toute ma journée qui va être décalée, etc. Donc tout ça crée des situations où, quand bien même on a des familles qui sont prédisposés à respecter la loi et donc ne pas jouer la carte de la rébellion, notamment vis-à-vis des surveillants. Et quand on a des surveillants qui sont très bienveillants vis-à-vis des familles, avec une attention à l'accueil particulier, ce qui n'est évidemment pas fait pour tous les surveillants, et bien il y a une relation qui est très compliquée à mettre en œuvre parce qu'il y a des temporalités différentes, parce qu'il y a des attentes très différentes. Et c'est aux surveillants de gérer en permanence la contradiction entre appliquer la règle et en même temps les personnes de l'institution. C'est très bien si les règles sont appliquées strictement, les choses explosent, mais en même temps, les surveillants seront tenus responsables s'il y a un incident. Voilà, donc les relations sont souvent... alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont toujours conflictuelles entre les personnels de surveillance et les familles, très loin de là, comme elles ne sont pas du tout toujours conflictuelles entre les familles et les surveillants et les détenus. Mais néanmoins, les choses sont prises dans des configurations relationnelles qui sont très complexes. Alors, ce qui permet souvent en fait, d'apaiser les choses, c'est que pour le coup, je vous ai dit, les surveillants ont une vision de la famille entrecoincée un peu entre risque sécuritaire et objectif de réinsertion, donc l'utilisation de la famille pour la réinsertion. Ce qui permet un petit peu de s'indéger et faire en sorte que les choses roulent finalement quand même au quotidien, c'est que ce qui est prioritaire, c'est que tout le monde sait que les familles sont essentielles pour l'apaisement de la détention et que finalement, les personnels ont quand même pour objectif en permanence de maintenir la paix dans l'établissement et elles savent, les personnels savent que s'il y a un incident au parloir, il y a instantanément des répercussions en détention et que si elles veulent que les choses soient apaisées en détention, c'est quand même leur objectif aussi, il va falloir être le plus arrangeant possible, néanmoins avec les familles. Ce qui traduit aussi quelque chose d'important, c'est qu'il y a une porosité évidemment des espaces entre le parloir et ce qui se passe en détention, et ce qui se passe en détention a nécessairement des répercussions sur ce qui se passe au parloir et inversement. Donc il ne faut pas avoir là aussi une vision du parloir comme étant complètement hermétique et comme se passant en dehors de tout autre contexte, et ça, les surveillants comme les familles le savent pour le coup très bien. Elles sont aussi deuxième catégorie de personnes qu'elles rencontrent en contact avec les autres familles de détenus. Et là aussi, configuration de relations extrêmement complexes parce que se rejouent des enjeux de stigmatisation et de rejet entre les familles des détenus qui complexifient beaucoup la mise en place de relations qui pourraient être... Alors il y a des effets d'entraide. Donc on va aider une famille qui arrive à lui expliquer les règles, proposer le sac à tel endroit, qu'on ne peut pas rentrer avec telle et telle chose au parloir, etc. Par contre, très peu d'effets de solidarité et quasi impossibilité de constitution d'un groupe de familles de détenus parce que trop d'enjeux, encore une fois, de stigmatisation. Et là aussi, effet de porosité entre l'intérieur et l'extérieur. Se reproduit des choses de l'ordre de la hiérarchie entre les détenus au niveau de la hiérarchie entre les familles. Les familles ne veulent pas fréquenter des personnes qui viendraient pour des détenus qui sont là pour des affaires de mœurs, par exemple, parce qu'il y a des détenus qui disent à certaines familles de ne pas discuter avec telle et telle autre famille parce que ça pourrait créer des problèmes. Donc là encore, hein, il faut bien voir que ce qui se joue entre les familles est très impacté par ce qui se joue ou qui peut se jouer avec les détenus. Troisième catégorie, ce sont les bénévoles d'associations d'accueil des familles de détenus, qui pour le coup là vont vraiment jouer un rôle de passerelle entre l'intérieur et l'extérieur, qui vont aussi jouer alors un rôle de transition entre le temps du trajet qu'on va voir rapidement et le moment de la visite où les familles vont pouvoir un peu se poser, se soutenir. Donc majoritairement j'ai aussi beaucoup travaillé sur le regard des familles sur les associations d'accueil. Il leur ressort très majoritairement beaucoup de reconnaissance par rapport aux bénévoles, avec beaucoup de sentiments d'écoute, de soutien, souvent très dans l'opposition finalement avec ce qu'elles disent de la prison. Mais néanmoins, là aussi, il y a des enjeux et un certain nombre de critiques. Alors par exemple, critique qu'un certain nombre d'associations soient fermées pendant la période estivale, ou en tout cas pendant le mois d'août. Et ça, c'est assez mal vécu par les familles. On nous aide, on ne nous aide pas, mais si on nous aide, voilà, nous continuons à venir, on fermera. Et puis des choses qui seront de l'ordre de la proximité éventuelle ou supposée avec l'institution. Il y a finalement que des affiches de l'administration pénitentiaire dans les locaux, voilà, c'est des choses qu'on peut entendre, ou des rapports religieux, parce que c'est souvent des personnes âgées, donc ça c'est tout ce qui relève hein, du bénévolat, et c'est souvent plutôt des personnes âgées, effectivement souvent en grande majorité catholiques plus ou moins dissimulés, mais il y a quand même ce profil-là, et parfois c'est aussi mal vécu ou ça prête à discussion. Voilà, donc tout ça interfère dans le parloir. Avant le parloir, évidemment, il y a toute une préparation. Enfin, un parloir, ça se prépare, hein, c'est vraiment le terme. Alors, on l'a, Ville s'entraîne notamment, l'a largement montré en détention, mais évidemment, pour les familles, moi j'ai pu observer. On a pu me décrire un certain nombre de rituels de conditionnement, pour reprendre le terme de Gilles Chantraine. Et c'est important de savoir que ça se prépare physiquement et psychologiquement. Ça se prépare physiquement parce que l'objectif, encore une fois, ça va être d'apaiser et de ne pas inquiéter le détenu qui déjà subit un certain nombre de conditions que l'on suppose très compliquées. Donc ça va dire de ne pas montrer sa fatigue, donc se maquiller, voilà, ne pas se montrer sous son meilleur jour. Mais ça peut vouloir dire aussi, donc se préparer physiquement aussi pour passer sous le portique sans que ça sonne, ou au contraire, décider que de toute façon, ce n'est pas le passage au portique qui va définir la manière dont ça vit, donc faire exprès éventuellement de faire sonner le portique. Il y a évidemment ça qui joue en autre. Ou se préparer physiquement selon les exigences des personnes détenues. Et j'ai un certain nombre de personnes qui m'ont dit, ben, voilà, depuis qu'il est là, on va revoir à la fin de cette intervention, il est exigeant, il est jaloux, et maintenant j'ai pu me rapporter quel type de t-shirt, j'ai pu me rapporter des jupes si courtes, etc. Donc se modeler quand on se prépare aux attentes du détenu pour éviter un conflit avec le détenu. Ça se prépare aussi physiquement parce qu'il faut préparer, et ça prend beaucoup de temps, tout ce qu'on va emmener au parloir, donc emballer les steaks hachés, les hamburgers, etc., qu'on va glisser dans les soutiens-gorge. Et tout autre bien qui sont transmis par d'autres endroits qui nécessitent un certain nombre de préparation physique. Et puis ça se prépare psychologiquement. Donc là, moi, j'ai beaucoup de personnes qui racontent qu'avant, sur le trajet, elles pensent à des choses joyeuses, elles essayent de chanter une chanson gaie dans la tête. C'est aussi beaucoup se préparer à. Parce que les temps de visite donc, sont très courts, on va voir que la conversation ne s'enclenche pas forcément facilement. Et du coup, c'est tout ce qu'on va et tout ce qu'on a à lui dire. Alors, parfois, il y a aussi une préparation où on écrit les quelques éléments que vous avez sur la main. Mais c'est aussi voilà, ne pas oublier, bien rappeler ce que je dois lui dire. Attention à que je ne dise pas des choses qui puissent éventuellement me blesser, etc. Alors là aussi, dans tout ce qui est l'amont parloir, je vous passe tout ce qui est obtenir un permis guidi, donc les papiers qu'il faut obtenir, qui prennent plus ou moins longtemps. Je vous passe, mais pas tellement finalement, parce que c'est important, la galère des réservations, et notamment la réservation du premier parloir. Les réservations se font ou par téléphone, et là, toutes les familles disent qu'il est quasi impossible, ou qu'il est extrêmement compliqué de téléphoner et d'avoir les personnes. Ce qui veut dire quand même qu'il y a des personnes qui, évidemment, travaillent et qui sont obligées d'appeler, et c'est pas. Entendu et redit encore, enfin reconstaté encore très récemment, des personnes qui sont capables d'appeler 200 fois de suite pour réussir à joindre quelqu'un au téléphone. Et puis le premier pavoir, il est galère à réserver, parce qu'en fait, les disponibilités, elles sont déjà prises sur les 2-3 prochaines semaines. Là, encore une fois, plus particulièrement dans les établissements qui sont surpeuplés. Et donc, parfois, il n'y a pas de pavoir de libre avant un mois. Sachant qu'il y a eu avant la période d'arrestation, la garde à vue, et donc il est possible que les familles ne revoient pas leurs proches entre le délai d'obtention du permis et le délai d'obtention du premier pavoir pendant un mois et demi ou deux mois, avec, vous imaginez les angoisses que ça peut susciter. Et donc l'importance et l'enjeu du premier pavoir que ça peut générer. Il faut évidemment aussi s'organiser pour aller au parloir, c'est-à-dire il faut que ce soit des horaires où on ne travaille pas. Si on travaille, il faut aménager ses horaires de travail. Et si on a des enfants, il faut organiser qui va les rechercher, etc., etc. Donc ça nécessite toute une logistique qui est extrêmement importante. Et ensuite, il faut effectuer tout le parcours pour aller au parloir avec une place prise dans les entretiens sur le trajet qui est considérable. Parce que c'est la galère. Il y a effectivement quelques familles qui habitent à côté. Mais même quand on habite à côté, moi j'avais une proche, une compagne qui me disait qu'elle mettait 10 minutes en voiture. Elle partait 1h30 à l'avance par crainte d'avoir un bouchon, d'avoir un accident sur la route. Qui disait à chaque fois, j'angoisse alors que son trajet était 10 minutes en voiture. Et ne détaille pas des trajets qui, pour le coup, sont des personnes qui font 600 km pour venir avec un bus qui amène un train, qui amène ensuite un autre bus avec des horaires de bus qui ne correspondent pas aux horaires de parloir. Et qui ne correspondent pas aux horaires de train, et que si on rate le bus, et bien on rate ensuite le train, etc. etc. Donc il y a vraiment toute une logistique, et donc ce trajet est vraiment toujours effectué avec beaucoup de crainte et d'appréhension, et c'est pour ça que quand les familles en fait, arrivent sur place, elles se vident, elles se décomposent déjà, souvent déjà épuisées psychologiquement et parfois physiquement, parce que par ailleurs aussi, souvent le trajet peut se faire avec des enfants en bas âge, et éventuellement avec un sac de linge. Et puis ensuite, c'est l'attente. Avant le parloir, parce que là aussi on n'arrive pas au parloir comme ça, on est appelé avant pour faire tout parcours un peu une fois qu'on est dans la porte et la salle de parloir, c'est encore très long. Et donc là, un des termes qui revient le plus pour les familles quand elles parlent du parloir, c'est évidemment le terme de l'attente, parce qu'il faut arriver souvent 3/4 d'heure avant le parloir et que parfois on attend bien plus avant d'accéder au parloir. Ensuite, il faut déposer ses affaires. Il faut passer. Alors, déposer ses affaires, pareil, ça paraît évident, mais dans les premières fois, c'est une galère. Les casiers souvent ne marchent pas. On est dans la panique, on a oublié de déposer quelque chose. Et donc, du coup, il faut se rappeler de son casier, on oublie son poste. Enfin, voilà, ça se fait souvent dans du stress qui rend les choses compliquées. Et ensuite, évidemment, il faut passer sous le portique. Donc tout ça, c'est tout ce qui se passe un peu avant, qui permet de comprendre que quand on arrive, on est déjà assez conditionné par un certain nombre d'états et de rencontres. Et puis, on le verra plus tard, le parloir, c'est aussi, ça se prolonge aussi après sur un certain nombre d'autres choses. J'arrive à la deuxième partie. L'intimité dans les parloirs, je vais essayer d'aller plus vite, l'intimité et règles de la conversation.
Là, on se dit qu'on...
Une dizaine de minutes, ouais.
10 minutes, ouais. Ouais, voilà. Donc, intimité, je vous l'ai dit, elle doit vraiment dépendre l'architecture des parois. Savoir si c'est des boxes individuelles ou si c'est une salle commune, si les boxes individuelles sont fermées intégralement ou pas, s'il y a une fenêtre ou si... Voilà. Ensuite, il faut bien choisir sa place, parce qu'il y a des places qui permettent d'avoir plus ou moins d'intimité, c'est-à-dire plus ou moins de se cacher des autres, mais aussi de se cacher du personnel de surveillance. Il est important de savoir que l'intimité, elle est, on le sait tous, très entravée par le personnel de surveillance, qui, c'est important aussi de savoir, va quand même exercer des conditions de contrôle qui vont être extrêmement différentes selon les personnels, avec certains qui sont très précautionneux, qui vont interdire à une compagne de s'asseoir sur les genoux de leur compagne, alors que d'autres vont laisser... complètement le parloir se décliner. Il y a des habitudes aussi selon les établissements. Et évidemment, les personnels sont en général plus tolérants dans les maisons centrales et les établissements pour peine. Il faut savoir que par contre, la surveillance est beaucoup plus importante pour les parloirs de femmes détenues parce qu'il y aurait, je cite les termes de Corinne Rostin, un risque de grossesse. Si l'intimité elle est très entravée donc par l'architecture et par les personnels, elle est aussi très entravée en fait, par les autres familles, par le bruit. Donc, ce n'est pas que la surveillance du VN, mais c'est très bruyant, c'est vraiment très bruyant. Par les conversations avec les autres familles, il y a vraiment là aussi un jeu de démonstration entre détenus et entre familles qui se passe au parcours. Donc en fait, parfois, la conversation, elle ne se passe pas entre le détenu et son proche qui vient visiter, mais elle se passe pour que les autres entendent, ou au contraire, en essayant surtout que les autres n'entendent pas. Donc ça se passe vraiment dans ce contexte-là. L'intimité, elle est aussi plus ou moins grande, selon l'organisation entre les visiteurs. Évidemment, quand une compagne vient toute seule voir son compagnon détenu, c'est pas la même chose que quand on vient avec la mère détenue. Quand il y a les enfants, c'est évidemment pas la même intimité qu'on peut avoir. L'objectif du parloir, je l'ai dit, c'est soutenir vraiment moralement le détenu, lui faire oublier pour un temps la prison, et avec cette crainte en permanence du suicide. Hein. Donc c'est vraiment lui offrir une bulle d'air avant du dehors pour le soulager de sa peine. Ce qui veut dire, c'est pour ça qu'elle explique notamment hein, toute la préparation en amont. Ce qui veut dire du coup qu'il y a des règles dans la conversation qui sont guidées en fonction de ces objectifs. Les familles disent d'abord qu'un des objectifs, c'est de se placer en position d'écoute, ce qui est souvent extrêmement compliqué et c'est très douloureux aussi pour elles, parce qu'elles ont également beaucoup de choses à dire et qu'il faut qu'elles apprennent à ce que les détenus ne vont pas non plus se livrer rapidement, pas facilement. Et du coup, il y a une personne qui m'avait dit que les parloirs, c'était la rencontre entre un TGV et un TER. C'est-à-dire qu'elles avaient envie, de déblater tout ce qu'elle avait vécu, tout ce qu'elle avait envie de dire par rapport à l'avancement du dossier, etc. Et qu'il fallait qu'elle apprenne à se taire, parce que sinon, l'autre idée aussi des parloirs, c'est de laisser un espace de parole quand on suppose, les familles supposent, que le détenu n'a pas d'autres interlocuteurs en détention. Et donc, s'il ne le dit pas à moi, je sais qu'il ne le dira à personne d'autre, donc il faut que je le mette en condition de pouvoir se lâcher, de pouvoir gérer les choses qui rapaillent. Donc, se placer en condition d'écoute, ce qui est très compliqué. Ensuite, il y a des silences, des tabous, des interdits. Donc, on parle très peu aux parois des conditions d'étendue. Les familles ne sont quasiment jamais, en tout cas, ne sont jamais quasiment à l'initiative de questionnement sur les conditions d'étention, parce qu'il ne faut pas parler de la prison, parce qu'on est justement, l'objectif, c'est de sortir de la prison. Et puis, parce que pour elles aussi, elles ont la crainte d'imaginer leurs proches dans des situations qui peuvent être très dégradantes. On ne parle pas de l'affaire aussi au parloir, quasiment pas. C'est un sujet qu'on reporte à l'extérieur, on en parlera plus tard. Alors pourquoi on n'en parle pas? Parce que souvent les parloirs sont courts et parce qu'on a très peur de générer et de susciter des choses qu'on ne pourrait pas gérer d'un point de vue psychologique ensuite. Et c'est-à-dire, les familles disent on ouvre une conversation et puis après le détenu se retrouve tout seul dans sa cellule, à qui il peut ensuite en parler et qu'est-ce que ça va générer. On ne parle pas de ses propres difficultés à l'extérieur. Parce que l'objectif, c'est de ne pas inquiéter. Et donc, on va plus ou moins mentir pour... Donc c'est imprégné de faux semblants et de non-dits et de conversations qui sont reportées. Donc, finalement, c'est souvent des conversations qui sont assez banales, avec beaucoup de place qui est donnée justement aux nouvelles de la famille, aux nouvelles du petit frère, de l'oncle, etc., etc. Et puis, quelques rappels de règles générales, il faut bien que tu tiennes, oublie pas, t'inquiète pas, t'es bientôt à bout, au bout de la peine, je serai toujours là, des paroles de réassurance. Dans les conversations aussi, il est important, on peut très facilement l'imaginer, qu'il est évidemment particulièrement compliqué d'annoncer des mauvaises nouvelles, évidemment des décès, des peines qui arriveraient, des maladies. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très compliquées, à la fois parce que ça fait souvent du coup rater un parloir parce que le parloir se passe mal, et puis parce qu'après on ne sait pas comment se passe l'année dernière. Mais c'est aussi à noter que les bonnes nouvelles sont aussi très compliquées à annoncer une naissance, c'est aussi dire que la personne va rater ça. Les périodes de fête, les périodes d'anniversaire sont toujours aussi particulièrement sensibles, les périodes de Noël. Est-ce qu'on souhaite une bonne année à son proche qui est incarcéré? Comment on souhaite un bon Noël, le parloir un bon Noël? Donc voilà, c'est toutes des choses qui sont particulièrement compliquées et qui vont évidemment marquer et l'interaction dans la conversation pure et évidemment la relation d'une manière plus générale. J'arrive sur la troisième partie très rapidement, je suis désolée, je pense que je suis vraiment dans le TGV. J'espère qu'on
aura le temps de revenir dans la discussion.
Voilà, sur certaines choses. L'effet sur la relation, alors, ça m'a assez frappée dans les premiers échanges et dans les premiers parloirs, parce qu'il y a une vision aussi qui est parfois assez idyllique du parloir, avec un sentiment que les parloirs, alors, et l'incarcération de manière générale, vient justement renforcer la relation. Avec l'idée que les parloirs, finalement, c'est un moment extraordinaire, donc qui sort de l'ordinaire, et que les personnes ordinaires ne vivent pas. Avec beaucoup de discours qui sont sur, finalement, au quotidien, quand on est avec son conjoint, et ben, on est pris entre les courses, les enfants, le retour du boulot, la fatigue, et finalement, on ne se pose jamais pour parler en tête à tête. Et là, les parloirs vont finalement être une occasion propice au dialogue, où on n'a que ça à faire de parler, et finalement, ça faisait des années qu'on ne s'était pas parlé. Et ça va être une occasion, c'est une occasion de parler, d'avoir un dialogue qui serait plus authentique, parce que qui ne serait pas envahi par le quotidien, par les mensonges, où on va percer du coup des abcès qui gangrenaient le couple, la relation entre des mères et des fils, qui pouvait être très compliquée. Voilà, donc c'est souvent présenté vraiment comme une chance. Et si j'interroge directement sur mais est-ce que les parents sont compliqués, est-ce qu'il y a des conflits, non, évidemment la relation en ressort vraiment valorisée, enfin renforcée. Alors ça s'explique par deux choses, c'est que d'abord les proches, il faut aussi qu'ils justifient pourquoi ils viennent, enfin, c'est compliqué de venir et des fois on peut se poser la question de pourquoi on vient, etc. Donc c'est aussi logique de rationalisation de ses propres actions, enfin, alors, voilà, c'est se donner aussi l'espoir qu'il y ait eu un changement. Et puis, c'est évidemment aussi des logiques de présentation vis-à-vis d'une chercheuse ou d'une personne. Mais évidemment, les parloirs et les relations sont bien plus compliquées, et il y a beaucoup de parloirs où finalement on ne sait pas trop quoi se dire. Parce qu'il faut, comme je l'ai dit, un laps de temps pour se retrouver, comme ça peut le faire parfois avec des proches extérieurs, hein, pas forcément utile. Parce qu'il y a trop de sujets qu'on n'ose pas aborder, trop de sujets tabous, parce que évidemment le contexte ne se prête pas à la conversation. Hein, comme j'ai dit, le fait de ne rien partager, c'est vraiment du coup plus compliqué de nouer une relation. Parce qu'il y a des personnes détenues qui se désintéressent de tout, notamment des personnes dont peine. Je me souviens d'une compagne qui voulait faire choisir le canapé à son mari qui est condamné à perpétuité, en sachant très bien que le mari ne pourrait jamais s'asseoir sur le canapé, et que voilà, mais c'était pour elle une manière de l'impliquer. Mais évidemment, les réactions peuvent être du coup très décevantes du point de vue du mari, parce qu'il y a aussi beaucoup de rancœur, alors qu'on n'ose pas dire, mais néanmoins. Voilà, donc quand on n'ose pas aborder l'affaire ou quand on n'ose pas dire aux proches, bah là t'as déconné, et ben néanmoins ça traverse quand même les échanges, parce qu'il peut y avoir une grande rancœur de la relation, et puis parce que voilà, il y a beaucoup d'autocensure et de crainte d'être écouté par l'institution carcérale ou par les autres familles, donc c'est pas le lieu où on va pouvoir se dire ceci, cela, etc. Donc ça crée des échanges superficiels, et puis il peut y avoir aussi, et je m'arrêterai là, en tout cas sur cette première partie, beaucoup de parloirs conflictuels, parce que le détenu est très exigeant, et donc va demander beaucoup de choses aux familles vont avoir du mal à tout répondre, parce que c'est des expériences temporelles très différentes, hein, j'ai dit au niveau de la conversation, mais là, voilà, c'est vraiment une confrontation entre des temporalités différentes, parce que les proches peuvent servir de défouloir avec l'extérieur, enfin, pour les détenus, parce que les détenus sont exigeants, mais aussi jaloux. Donc il y a vraiment, alors là je pourrais redévelopper des questions en termes d'analyse de genre qui permettent de comprendre qu'il y a des détenus qui sont évidemment atteints dans leur virilité, avec des femmes qui peuvent au contraire elles se sentir valorisées parce qu'elles prennent la place, et donc du coup des détenus qui vont essayer d'exercer un contrôle encore plus fort sur leurs compagnes, se sentant dévalorisées. Voilà, surtout qu'on est sur des populations qui sont évidemment plus précaires et de milieux plus populaires, et où donc les rapports de genre et la définition de la virilité restent très traditionnels. Et puis des proches qui évidemment peuvent être sous emprise. Donc il arrive évidemment que la rencontre ne se fasse pas et que le parloir ne se fasse pas, ce qui est extrêmement douloureux de chaque côté du lit. Rapidement pour la sortie de parloir.
Donc, très rapidement.
Très rapidement. Sortent en essayant le plus vite possible de quitter l'établissement pour retourner voir leur proche, mais essayent aussi de prolonger l'interaction. Et donc, beaucoup me disent voilà, je repense à tous les gestes qu'on a échangés, à toutes les paroles qui se sont dites. Et trois mots, enfin, sur ce qui sort, par contre, enfin, de l'expérience des familles, c'est la notion de déchirement et d'abandon. Elles ont l'impression d'abandonner leur proche intérieur, de frustration très souvent. Il y en a frustré, on n'a pas eu le temps de se parler, j'ai pas dit ce que j'avais eu envie de dire, ça s'est mal passé, je comprends pas pourquoi, quelles vont être les conséquences ensuite. Et puis c'est là où on craque, et très souvent les familles se vident et on ressort très abîmés émotionnellement, avec un sentiment de culpabilité et d'impuissance, et avec un sentiment de souillure, avec des processus de famille qui essaient de se laver ensuite de ce partage. Merci beaucoup.
Merci. Merci.